VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Ouagadougou, midi à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Niger, des milliers de résidents des îles nigériennes du lac Tchad ont abandonné leur domicile par crainte de nouvelles attaques de Boko Haram. Selon l'AFP, ils avaient été appelés jeudi dernier à évacuer d'ici à ce lundi ces sites vulnérables pour des impératifs de sécurité. L'évacuation s'est faite dans des conditions très difficiles, affirme Moussa Tchangari, le responsable de l'ONG nigérienne Alternative Espace Citoyen. Mais côté autorité locale, on assure que les opérations se déroulent normalement. En Guinée, une vingtaine de blessés à Conakry. Le bilan des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre hier, selon l'opposition, qui insiste sur une révision du calendrier électoral. Des précisions avec Eddy Issango.
Policiers et gendarmes étaient déployés en masse à Conakry et sa banlieue. Tôt le matin, la résidence des Sélou d'Alain Diallo, chef des files de l'opposition, était bouclée par un cordon de police. À Koloma, des manifestants ont brûlé des pneus et jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont fait usage des gaz lacrymogènes. À Kaloum, les quartiers d'affaires, des femmes ont tenté une marche qui a été vite dispersée de manière musclée et une dizaine d'entre elles ont été arrêtées. Et selon Mamadou Mouktar Diallo, porte-parole adjoint de l'opposition, il y a eu 26 blessés, dont une dizaine par balle. Pour sa part, le gouvernement a dénombré 2 civils blessés dans des accidents de la circulation causés par les protestataires. L'opposition guinéenne exige la révision du calendrier qui renvoie les élections locales après la présidentielle d'octobre, ce que refuse catégoriquement le président Alpha Condé.
Au Bénin, le député Candide Azanaï, prêt à se rendre aux autorités aujourd'hui. Les efforts pour l'interpeller hier pour insulte au chef de l'État ont échoué suite à la mobilisation de ses partisans pour le protéger. D'où des échauffourées dans la capitale entre les manifestants et la police qui a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les contestataires. Plus de détails sur cette affaire avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Nous allons soutenir Azanaï, que qu'en soit ce que va se passer, on est prêt pour mourir Azanaï.
Nous le soutenons jusqu'à la mort. On peut tirer sur moi, je suis prêt à mourir pour lui, c'est tout.
Azanaï n'a pas une main petite dans notre pays, il a un grand quelqu'un. C'est à cause de ça qu'on a trop de supporter.
C'est là un échantillon exhaustif de ceux qui ont constitué le bouclier humain autour du député Candide Azanaï, recherché pour ses propos jugés inconcevables envers le chef de l'État lors de la campagne électorale. Alassane Tigri, secrétaire général de la présidence de la République.
Le président de la République, en tant que citoyen, a porté plainte devant la justice contre les propos inacceptables pour lui, mais aussi et surtout pour l'image et le crédit de la démocratie béninoise.
En réponse à la plainte du président de la République, le procureur de la République a instruit la gendarmerie nationale pour délivrer une convocation aux mises en cause. Mais la délivrance de cette convocation n'a pas respecté les règles en la matière, selon Guimi Tokwe, secrétaire général du parti Restaurer l'espoir du député Candide Azanaï.
Nous, on ne parle pas d'interpellation, nous parlons de kidnapping. C'est une tentative de kidnapping parce que aucune norme en la matière n'a été respectée. C'est un parlementaire en exercice. On ne peut pas vouloir faire infraction chez lui comme nous l'avons constaté ce matin. Le semblant de mandat d'arrêt qu'ils ont produit n'avait pas de motif.
Pour le juriste et politologue Gilles Badet, un député en exercice ne peut être interpellé de la sorte.
Le député est protégé par l'inviolabilité. Cela veut dire que pendant les sessions, il ne peut être exceptionnellement arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. En dehors de toute session, il ne peut être exceptionnellement arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Même dans les cas de flagrant délit, l'Assemblée nationale a toujours la possibilité de demander la suspension de toute arrestation.
Un accord est intervenu entre les avocats de Candide Azanaï et ceux du président de la République pour que les députés se présentent au procureur de la République dans l'après-midi de ce mardi. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, poursuite des manifestations contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. Le bilan des protestations hier, avec le militant pour les droits humains Pierre Claver Mbonimpa, joint à Bujumbura par Idriss Fall.
Je sais 5 personnes qui ont été tuées et il y a a plus de 46 personnes qui ont été blessées. Il y a aussi des policiers qui ont été blessés à cause des grenades. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais aussi, nous avons découvert que même à l'intérieur du pays, comme en province de Mwaro, comme ici à côté de Bujumbura, il y a Igenda, il y a eu des manifestants pour dire que l'ampleur commence à prendre tout le pays. Et petit à petit, ça se rend dans toutes les provinces.
Pierre Clavé Mbonimpa, président de l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues. Réaction du secrétaire d'État américain John Kerry en tournée en Afrique. La candidature du président Nkurunziza va à l'encontre de la constitution du Burundi. Selon l'AFP, M. Kerry a aussi exprimé l'espoir que le chef de l'État burundais pourrait encore renoncer à sa candidature d'ici à la date du scrutin. En Centrafrique, le forum de réconciliation est en cours depuis lundi. Le KNK, le parti de l'ancien président François Bozizé, boycotte la réunion. Son secrétaire général Bertin Béa justifie cette décision par la mise à l'écart des principaux acteurs de la crise centrafricaine, à savoir les ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia.
Mais nous pensons que le début de la transition aurait pu créer les conditions d'une véritable réconciliation en amont. Mais nous avons eu le sentiment que ces autorités de transition se sont comportées exactement comme s'ils avaient remporté des élections et qu'ils traitaient les autres comme des moins que rien. Et donc, devant cette situation, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu une position d'arbitre dans ce qui s'est passé. Parce que Mme Cheta de transition a été élue pour, n'est-ce pas, conduire le pays vers la réconciliation et de nouvelles élections. C'est ce qui est contenu dans la feuille de route, n'est-ce pas, qui lui a permis d'être élu. Aujourd'hui, cette feuille de route n'est plus respectée et nous pensons que la position des autorités est une position partiale, exclusive, et c'est un outil qui explique notre absence à la réunion du forum de Bangui.
Bertin Béa, secrétaire général du KNK. Conflit au Soudan du Sud, Washington d'accord pour la création d'un tribunal pour juger les auteurs de crimes dans le pays. C'est ce qu'a déclaré hier le secrétaire d'État américain John Kerry, Morgan Guriek.
Au cours de sa visite officielle au Kenya, John Kerry a dit soutenir la création d'un mécanisme judiciaire crédible, impartial et efficace, tel un tribunal hybride, pour que les responsables des violences puissent répondre de leurs crimes. Pour démarrer la mise en place d'une telle instance, Washington s'engage à donner 5 millions de dollars. Human Rights Watch avait proposé en décembre 2014 la création d'un tribunal hybride comprenant des juges du Soudan du Sud et des juges internationaux. L'Union africaine aussi avait plaidé en faveur de la poursuite des responsables des crimes. Le conflit sud-soudanais a éclaté en décembre 2013 entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Les combats sont souvent accompagnés de massacres et atrocités contre les civils. Ce conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts dans le plus jeune pays du monde.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a reçu lundi les représentants de la communauté éthiopienne. Au lendemain des manifestations les plus violentes des membres de ce groupe contre le racisme de la police et les discriminations sociales visant les Farachas, les Juifs originaires d'Éthiopie. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'audience qui visait à calmer la colère de cette communauté a duré plus de 3 heures. Monsieur Netanyahou, selon ses services, a insisté sur la nécessité d'être unis contre le phénomène du racisme, de le dénoncer et de l'éradiquer. Il a aussi chargé une commission ministérielle de s'attaquer aux problèmes d'intégration rencontrés par les Israéliens d'origine éthiopienne dans le domaine de l'éducation, du logement et de l'emploi. Plus d'une soixantaine de policiers et manifestants ont été blessés dimanche soir à Tel Aviv, selon un nouveau bilan policier, au cours d'une manifestation qui a dégénéré en émeute et provoqué un débat national sur le racisme. À l'origine, une vidéo montrant 2 policiers en train de frapper, sans raison apparente, il y a une semaine, près de Tel Aviv, un soldat d'origine éthiopienne en uniforme.
Et pour terminer, visite surprise du secrétaire d'État américain John Kerry aujourd'hui en Somalie. Monsieur Kerry est arrivé vers midi, heure locale à Mogadiscio. À son programme, des consultations avec les autorités somaliennes sur des questions de sécurité et de développement notamment. John Kerry compte également remercier les forces de l'Union africaine qui ont beaucoup aidé à stabiliser la Somalie. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet et aussi notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info.